Ce matin, dimanche après Pâques, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, pour moi, Pâques, il y a quelque chose de spécial dans Pâques. Là. On est chrétien, Pâques, la résurrection, le miracle de la croix, trois jours après, ressuscité. Il y a quelque chose là-dedans qui parle de victoire, qui parle de la puissance de Dieu, qui parle de la vie qui émerge des cendres. Et ça, ça devrait être un encouragement pour chacun de nous, parce que dans chacune de nos vies, il y a des zones qui sont littéralement brûlées, cramées, peu importe comment vous le dites, qui sont en cendres. Et Pâques et la résurrection nous rappellent que même malgré les cendres, même si la mort est visible, la vie peut jaillir, la vie peut renaître, la victoire, ce qui semblait être une défaite complète, devient une victoire éclatante. Et ça, ça devrait parler à quelqu'un qui pense que sa vie est une défaite, que sa situation est une défaite. Pâques nous rappelle que même si tout ce qu'on voit, ça ressemble à une défaite, trois jours après, tout a changé. Amen. Ça, c'est la puissance de la croix. Et il y a quelque chose de beau, alors qu'on se remémore Pâques, Vendredi Saint, avec la croix, et on l'a entendu avec notre prédicateur invité, Pasteur Michel, l'idée que la croix est la révélation, la façon la plus visible qu'on a de pouvoir admirer l'amour de Dieu. Cet amour qui s'est livré, qui s'est donné. Cet amour déployé à la croix. Et rien ne peut nous en séparer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est vraiment mon thème de ce matin, le thème que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et juste avec Pâques, on est capable de comprendre ça. Mais il n'y a pas juste nous qui peut s'émerveiller de ça. L'apôtre Paul, quelques années après la résurrection, va s'émerveiller du fait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et je vous demande de tourner dans votre cellulaire, dans votre Bible papier, dans Romains 8. C'est un de mes chapitres préférés de la parole. Il y a du stock là-dedans. C'est incroyable. Et on va en regarder une petite partie ensemble, parce que si on regardait tout le chapitre 8, on en aurait pour au moins 6-7 heures. Mais là, on va regarder 8 ou 9 versets. Et puis, je vous invite à tourner avec moi dans Romains 8. Et puis, on va commencer notre lecture à partir du verset 31. Et remarquez bien, dans ce passage, les questions sont importantes. Dans la vie, en général, les questions sont importantes. Avez-vous remarqué que les meilleures amitiés sont basées non pas sur les meilleures réponses, mais sur les meilleures questions? Dis ça de même. J'ai rien dit. Mais là, ici, l'apôtre Paul va utiliser des questions pour nous faire comprendre à quel point rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Alors, ça va comme suit à partir du verset 31. « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Verset 36, de fait, il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Verset 37, « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Amen. Quel beau texte! Un texte qui parle de la grandeur de l'amour de Dieu, mais qui ne nie pas la réalité de l'existence humaine, qui ne nie pas l'existence de la souffrance. Et parfois, on peut lire ce texte-là et vraiment le prendre hors contexte et dire, « Hey, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? » Et là, dans notre tête, ça s'imagine que si Dieu est avec moi, ça veut dire que je ne peux pas avoir aucun ennemi. Puis là, vous dites, « Ouais, t'as peu. » Il me semble que dans la pratique, ça ne marche pas bien. Il me semble que dans la réalité, non, il y a des ennemis. Puis quand on regarde la parole, on se dit, hey, non, t'as peur, là. Jésus a eu des ennemis, Paul a eu des ennemis. Puis ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'on puisse regarder ce texte-là et vraiment mieux comprendre et vraiment pouvoir appliquer ça à nos vies. Et j'espère que vous serez aussi excités de l'entendre, que j'ai eu du fun à le préparer. Il y a quatre grandes questions qui se répondent par une seule grande réponse. Qui sera contre nous? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Quatre grandes questions avec une même réponse. La réponse, c'est rien ni personne. Qui les condamnera? Rien ni personne. Qui les accusera? Rien ni personne. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien. Hey, vous êtes écœurants, hein? Bravo. Vous avez compris. Fin du message. OK. vraiment. Et puis, vous allez voir que dans les trois premières questions qu'on va explorer, ça nous parle du légal. Ça parle d'un... Comme si on était en cours de justice. Qui accusera? Qui condamnera? Qui sera contre nous? Et il y a une partie légale dans tout ça. Une partie comme une image de la cour. Puis la quatrième va être vraiment plus au niveau relationnel. Qui nous séparera de cet amour de Jésus-Christ? Et on va voir que pour mieux comprendre ce texte-là, il y a un théologien, Vorwinde, en tout cas, je ne sais pas comment le prononcer, qui va parler de l'aspect de l'adoption qui serait intéressant pour bien comprendre ce passage-là. Alors, juste pour vous mettre en contexte, si on regarde la prochaine diapo à Romains 8, 14, on est toujours dans le chapitre 8, ça veut dire, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Ça pourrait être un résumé de la parole qu'on a entendue tout à l'heure. Okay? L'idée de l'adoption est dans ce passage-là. Puis dans Romains 8, 23, ça va dire ceci. Et ce n'est pas elle seule qui soupire la création, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Et je veux juste vous dire que l'adoption fait partie de Romains 8, OK? C'est pas une idée que moi j'amène de l'extérieur. Ça fait partie de Romains 8. Et il y a quelque chose d'intéressant dans l'adoption au niveau des Romains de l'époque. Et je veux vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, une adoption d'un enfant à l'époque romaine. Et un peu comme nous, c'est une transaction légale. C'est-à-dire que c'est une transaction légale où le parent naturel ou le parent, on va l'appeler biologique pour les fins de l'histoire, eux autres, ils ne l'appelaient probablement pas comme ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il refuse ses droits sur l'enfant. Et puis, il y a une transaction légale qui amène les droits parentaux complètement à la famille adoptive. OK? C'est transférer, l'autorité est complètement transférée au père adoptif. Jusqu'ici, pas trop de changement par rapport à ce qu'on est habitué. Le fils recevait, le fils adopté recevait tous les droits de la nouvelle famille. Par exemple, s'il y avait le droit de citoyenneté romaine, l'adoption faisait en sorte que tous les droits qui étaient là dans la famille se maintenaient et s'appliquaient à lui. Et il était traité d'une façon égale s'il y avait d'autres fils naturels ou adoptés. Fait, quand il arrive dans la famille, il n'est pas un demi-frère, il est un frère à part égale, entière. OK? Mais voici là où ce que ça devient intéressant. C'est que quand il y a une adoption à cette époque-là, les dettes de son ancienne vie étaient complètement effacées. C'est comme s'il y a un clean-up de toute sa vie avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne pouvait y avoir aucune accusation qui se donnait par rapport à son ancienne vie ou dans son ancienne famille. C'est-à-dire que peu importe les niaiseries qu'il avait pu faire dans son passé, dans sa famille, pas adoptive, mais biologique ou naturelle, il n'y a rien ni personne qui pouvait ramener ça une fois qu'il était dans sa nouvelle famille. C'est comme s'il était une nouvelle personne. C'est comme si on effaçait ses pièces d'identité et là, le dossier était complètement vierge pour cette nouvelle vie-là. Vous comprenez? Et là, il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant parce qu'aux yeux de la loi, il est un nouvel homme complètement. Là, il y en a qui font des liens dans leur tête, qui disent « Oh, t'as peu, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. » On va regarder ensemble nos quatre questions, puis vous allez comprendre à quel point c'est intéressant, OK? Et on va voir dans les questions de Paul cette réalité, cette image-là qui reflète le statut de ceux qui croient. Comme on l'a lu tantôt, de Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la famille de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont été pleinement adoptés par Dieu. Ça va jusqu'ici? Vous comprenez un peu l'image? Alors, on va regarder la première question que je veux qu'on regarde ensemble, c'est « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et l'idée, c'est que si nous sommes dans la famille de Dieu, qu'on a été adoptés dans la famille de Dieu, ben qui pourrait se tenir contre nous dans une cour de justice? Qui pourrait être notre adversaire? Je ne sais pas si vous comprenez un peu le lien. Qui pourrait contrecarrer notre adoption? Qui pourrait empêcher le plan divin? Qui pourrait s'opposer à nous si nous sommes adoptés? Adoptés par Dieu. Et là, il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant parce que, comme je vous dis, on peut appliquer ça à notre vie en disant « Je ne devrais pas avoir d'ennemis, moi, parce que je suis adopté par Dieu. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? » Et au final, on peut juste réfléchir à la vie de l'apôtre Paul. Est-ce que des personnes se sont opposées à l'apôtre Paul? Et ceux qui ont lu le Nouveau Testament n'ont pas le choix de dire. Plusieurs fois. Même à Athènes, littéralement, la justice va le kicker out. Il va être lapidé, il va être rejeté, il va avoir des ennemis parmi les Juifs, parmi les Romains, etc. Alors là, cette pensée-là de dire, ben, y a personne ne peut s'opposer à moi, je suis chrétien, moi j'ai comme une bulle de protection. Ben, franchement, Paul n'avait pas la même bulle que nous imaginons. Okay? Parce qu'il a été accusé et il y a des gens qui se sont opposés à lui une tonne de fois. Et franchement, entre vous et moi, beaucoup de personnes ici ont vécu la même chose. Ont vécu de l'opposition à cause de leur foi, à cause de leur croyance. Et il n'y a pas de déni ici du tout. Mais quand l'apôtre Paul va dire ça, à quoi il fait référence? Il ne fait pas référence à notre vie ici. Il fait référence à si nous sommes avec Dieu, si nous sommes avec Dieu, qui va pouvoir se tenir contre nous le jour du grand jugement? Et la réponse, c'est rien ni personne. Et notre ancienne famille adoptive, entre guillemets, c'est quoi notre ancienne famille adoptive? Hein? Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Là, vous dites, ouais, ça fait mal à dire un peu, mais mon ancienne famille adoptive, c'était pas Dieu. C'était l'autre bord. C'était l'autre équipe. Vous comprenez? Qui de ceux-là pourra nous accuser alors qu'on est devant le grand jugement? La réponse, c'est rien ni personne. Et on peut même, tu sais, on est Pâques était la semaine dernière. Est-ce que des gens ont été contre Jésus pendant la fin de semaine de Pâques? Évidemment, tout le monde était contre lui, sauf les 12 disciples. Puis la question que j'ai déjà posée récemment, puis que je vais reposer encore dans notre série sur la croix, c'est qui ultimement a livré Jésus? Est-ce que c'est Judas qui a livré Jésus à cause de l'argent? Oui, mais non. Est-ce que c'est Pilate qui a livré Jésus par peur? La réponse, c'est oui, mais non. Est-ce que c'est les Juifs, les dirigeants, qui ont livré Jésus par jalousie? Oui, mais non, vraiment pas. Qu'est-ce qu'on apprend de l'Écriture? C'est le Père qui a livré son Fils par amour. Et devant Dieu, parce que justement, Jésus a vécu toute cette opposition-là, OK? Puis que Dieu lui a dit quoi? « Tu es mon Fils bien-aimé », hein, l'idée de l'adoption. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on apprend que Dieu, Jésus, est à la droite du Père et personne ne peut s'opposer à lui. Qui sera contre Jésus? La réponse, c'est rien ni personne. Alors ici, dans cette phrase-là, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On ne parle pas d'aujourd'hui. On parle de cette destinée divine-là suite à l'adoption. Alors on continue. Qui accusera ceux que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Encore ici, si on est... ce choix d'être adopté, il vient de qui? Encore une bonne question. Qui accusera ceux que Dieu a choisi? Qui est l'initiateur de l'adoption? Votre prière ou Dieu? Dieu! Absolument! C'est Dieu qui, alors qu'on était pécheurs, nous a aimés le premier. C'est Dieu qui nous a attirés à lui. C'est Dieu qui est responsable de cette adoption-là. Seul lui peut signer le papier. Maintenant, est-ce que Dieu collabore avec notre foi, notre désir de marcher avec lui? Absolument! Mais l'adoption vient de qui? Dieu. Et la question, c'est qui va accuser ceux que Dieu a choisis? Et l'idée ici, encore une fois, c'est que qui peut porter une accusation à une personne qui a été légalement adoptée avec tous les droits qui en découlent? La réponse, c'est rien ni personne. Quelque chose de beau là-dedans. Il y a une assurance qui se dégage de tout ça. Et l'apôtre Paul a été accusé à maintes reprises. Et des gens ici, à maintes reprises, avaient été accusés faussement de toutes sortes de choses. Mais si Dieu te déclare juste, qui pourra te condamner? Qui pourra t'accuser? Qui pourra porter des charges contre toi? Qui pourra dire un jour, tu es coupable? La réponse à cette question est rien ni personne. Et ça, c'est notre assurance en Jésus. Notre assurance, ce n'est pas qu'on ne sera jamais accusé de ce côté-ci de l'éternité. Notre assurance, c'est qu'on ne sera jamais condamné ni accusé de l'autre côté de l'éternité. Amen. C'est une assurance qu'on a. C'est une assurance qui est là. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Rien ni personne. Et l'apôtre Paul continue, il en rajoute une couche. Qui les condamnera? Rien ni personne. Encore une fois. Et encore une fois, cette idée-là que l'ancienne famille n'a aucun droit de condamner, même si l'ancienne famille connaît tous les mauvais coups qui ont été faits. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Hein? C'est comme si, dans le monde spirituel, c'est comme si l'ennemi connaît tout ce que vous avez fait de tout croche avant de connaître Jésus, avant d'être une nouvelle créature. Il y aurait peut-être un ou deux volumes sur chaque personne ici, n'est-ce pas? Certaines personnes peuvent aller même jusqu'au volume 5. Il ne va pas être bien loin de ça. Mais est-ce que vous comprenez que ce livre-là, avec toutes les accusations, toutes les choses qu'on a pu faire, l'adoption fait en sorte que ce livre-là a complètement été brûlé. Alors peut-être qu'il y a des gens ici, là, vous êtes ici et vous vous sentez condamné littéralement dans vos vies parce que vous dites, hey, moi, avant de connaître Jésus, j'ai tellement fait de niaiseries, j'ai tellement fait de mal à des chrétiens, à des non-chrétiens, à tout ce qui respire. Et là, vous êtes dans cette condamnation-là, mais il y a un espoir. L'espoir, c'est que à cause de la croix et de la résurrection, ce livre-là des archives avant notre nouvelle naissance, c'est terminé, il n'existe plus. C'est dans la mer de l'oubli, pour utiliser un autre texte de l'Écriture. C'est complètement effacé. Alors ici, l'apôtre Paul va dire, qui les condamnera? Chapitre 8 encore de Romains et verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature, mais conformément à l'Esprit. Et encore une fois, est-ce que l'apôtre Paul a été condamné pendant son ministère? Ben oui, il a fait de la prison pendant plus que 2 ans. Il a été condamné en prison. Tu sais, on voit le Paul et Silas en prison, ça vous dit quelque chose? Qui chantent pendant la nuit après s'être fait faire toutes sortes de souffrances et de tortures. Ben, s'ils étaient en prison, c'est parce qu'ils ont été condamnés, n'est-ce pas? Oui. Plusieurs reprises. Et l'apôtre Paul, quand il pose cette question-là, qui les condamnera? Et on a la suite juste du verset. Il ne donne pas une réponse par la suite, mais il nous rappelle le geste d'adoption. Qui les condamnera? Et là, on lit la suite du verset. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Non seulement toutes les accusations de notre ancienne famille ne sont plus valides, mais en plus, on apprend que l'amour de Dieu n'est pas un amour passif, n'est pas un amour qui est un one-shot deal ou un one-hit wonder, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que l'amour de Dieu n'est pas juste un instant précis dans l'histoire et après ça, c'est fini. Non seulement ça, ça dit que notre adoption fait en sorte qu'il n'y a aucune condamnation possible, mais en plus, Christ intercède pour nous. Et si on regarde le terme « intercéder », on pourrait parler de « plaider ». Le Saint-Esprit plaide pour nous. Le Saint-Esprit est comme un avocat auprès du Père. Et on a encore cette image-là dans cours. Qui les condamnera? Rien ni personne. Pourquoi? Parce que de notre côté, il y a un avocat, il y a un défenseur, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus qui est là et qui défend et qui dit « non coupable ». Vous comprenez? Il y a un amour actif qui est là, qui est extraordinaire. Et ça fait écho au message de Pasteur Francis sur le livre de 1 Jean. Et on va lire 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Et ça va dire, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. Hey, vous êtes supposés avoir le sourire, là, guys. C'est extraordinaire. Qui les condamnera? Rien ni personne. Et là, on continue. On passe de l'aspect légal à l'aspect relationnel. Il y a quelque chose de beau qui se passe ici. Ça veut dire, la quatrième question, qui nous séparera de l'amour de Dieu? J'aimerais dire que la croix n'est pas un arrangement légal où est-ce que Jésus a été sur la croix en disant « Bien fait, ils savent c'est quoi mon amour maintenant qui s'organise. » La croix n'est pas juste un moment où est-ce que Jésus est là sans émotion à dire « Ok, maintenant vous pouvez être pardonné, bravo, let's go guys, ayez la foi. » Il y a une raison pour laquelle on appelle la fin de semaine pascale, la fin de semaine de Pâques, la passion du Christ. Parce que Jésus, lorsqu'il est sur la croix, ce n'est pas un acte légal et juste « il faut que je remplisse les conditions de mon Père ». Il y a quelque chose de profondément émotionnel là-dedans. Il y a l'amour, une preuve infinie d'amour et un amour qui dépasse tout ce qu'on peut même comprendre. La croix n'est pas juste « j'ai fini ce qu'il fallait faire ». Non, la croix est une démonstration d'un amour qui va jusqu'au plus profond de l'être de Jésus, du plus profond du cœur de Dieu. Ton adoption, ce n'est pas juste pour avoir un locataire de plus au ciel. Ton adoption comme nouvelle créature en Jésus, c'est l'émanation du cœur d'amour de Dieu pour vous et pour moi. Des fois, on essaie de voir Jésus, puis des fois, on le voit dans les films sans émotion. Tu sais, c'est comme « ben drame ». Ta foi t'a guéri. Je prends les enfants, je les bénis. Ah oui, va courir. Ou tellement philosophique qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas. C'est bizarre. Sachez que la parole de Dieu est plus crédible que n'importe quelle série ou n'importe quel film. Amen. Quand ça parle de l'amour infini de Dieu, ça parle de l'amour infini de Dieu. L'amour. C'est une décision, oui, mais une décision qui implique l'âme, le cœur et notre intelligence. Ce n'est pas juste un feeling, mais c'est aussi, ça vient de notre cœur. Comprenez? Le mariage, ce n'est pas juste avoir des papillons. Le mariage, c'est une décision qui est prise pas juste avec notre tête. On n'est plus d'un mariage arrangé, s'il vous plaît. Le mariage, c'est une décision qui nous implique jusqu'au plus profond de notre cœur. Il y a un amour qui se dégage, qui doit se développer. Ce n'est pas juste la tête, là. Et tous les couples disent « Amen, s'il vous plaît. » Mais ici, ça va parler qui nous séparera de l'amour de Dieu. Et peut-être que vous n'aimez pas le verset d'après. Parce qu'il va dire « Hey, est-ce que c'est la détresse, l'angoisse, la persécution. Est-ce que ces choses-là peuvent nous séparer de l'amour de Dieu? La faim, le dénuement, le danger, l'épée, est-ce que tout ça peut nous séparer de l'amour de Dieu? » Et la réponse, c'est non, mais ce qu'on peut comprendre du livre des Actes puis des écrits de Paul, c'est qu'il a vécu toutes ces choses-là, excepté l'épée. Pourquoi il n'a pas vécu l'épée? Parce que s'il avait vécu l'épée, il ne serait pas en mesure d'écrire le livre. C'est terminé. Vous comprenez? C'est la seule chose là-dedans qu'il n'a pas vécu personnellement. Et c'est intéressant que quand l'apôtre Paul va écrire cette lettre-là aux Romains, moins d'une décennie plus tard, ce sera l'empereur Néron qui va régner sur Rome et qui va amener une persécution sans précédent sur tous les chrétiens qui sont à Rome. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire « qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Je suis dans ma bulle, je reçois juste l'amour, il n'y a pas de difficulté, c'est extraordinaire. » On n'est pas dans le monde de Calinours, là. Et l'apôtre Paul va le dire très clairement. Est-ce que ces choses-là qui sont des difficultés réelles, est-ce que ça a le pouvoir de nous séparer de l'amour de Christ? La réponse, c'est non. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il n'est pas en train de dire, à cause de l'amour de Dieu, vous ne vivrez pas de difficultés. Il est en train de dire, regardez mon exemple personnel. Regardez ce que j'ai vécu comme vie. Moi, j'ai vécu toutes ces choses-là. Le dénuement, la faim, la détresse, tout. À part l'épée, là. Puis comme je vous dis, au final, il a passé en persécution lui aussi, là. Hein? Il va dire, l'amour de Dieu ne m'a jamais manqué quand j'ai traversé tout ça. L'amour de Dieu n'a pas failli et demeuré tout proche. Les difficultés n'ont enlevé aucune miette de mon assurance dans l'amour de Jésus. Et il va même aller plus loin que ça. Il va dire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Et si on regarde le texte grec de ça, ça va parler de plus que vainqueurs, c'est des hyper victorieux. Là, tu dis, my goodness, t'es qui toi l'apôtre Paul? C'est quoi? T'es fait comment? Moi, tu sais, je passe à travers tout ça, mais l'amour de Dieu a tellement été là, ne m'a jamais failli. Au contraire, je suis plus que vainqueur. Je suis un hyper victorieux à travers l'amour qui a été prouvé par Jésus, à travers l'amour, à travers celui qui m'a aimé. Dans son amour, j'ai une sécurité éternelle. Vous savez, les croyants ne sont pas épargnés de la souffrance. Ça va? Ce texte-là est loin d'être un texte dans le déni, là. Vous comprenez, on est vraiment assis dedans, là. Mais j'aimerais te dire que dans l'épreuve, que d'être dans l'épreuve n'a rien à voir avec une idée que Dieu t'aurait oublié, qu'il t'aurait abandonné ou que son amour se serait séparé de toi. Le texte, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, même malgré cette souffrance-là, il n'y a rien qui a le pouvoir de te séparer de cet amour-là, même la souffrance. Et Dieu ne s'est pas détourné. Et Dieu ne t'a pas abandonné. Et Dieu, on l'a dit, hein, souviens-toi de ton peuple, on l'a chanté ce matin. Dieu ne t'a pas enlevé son amour parce que tu vis dans la souffrance. Au contraire, sa grâce nous suffit, son amour nous remplit, comme on l'a chanté. Nous sommes en pleine sécurité dans son amour, peu importe le danger présent. Et j'aimerais peut-être vous dire la chose suivante. Peut-être que ce n'est pas prêché assez souvent, je ne sais pas. La souffrance ne devrait pas nous détourner de lui, mais elle devrait nous aider à s'identifier à lui dans ses souffrances, à lui. Hein, ça veut dire que l'élève n'est pas plus grand que le maître. Hein? Si j'ai souffert, vous allez souffrir aussi. Ça va? Et on va pas dans une théologie de la souffrance où est-ce que finalement toute la souffrance, puis si, puis... Non, il y en a qui espèrent la souffrance. C'est pas de ça qu'on parle du tout, OK? Ce qu'on est en train de dire, c'est que la souffrance ne devrait pas nous éloigner de lui parce qu'elle devrait nous aider à s'identifier à lui à travers ses souffrances à lui. Et juste dire, regarde, de la même façon que toi tu as souffert, Seigneur, moi aussi je souffre. Et de la même façon que tu as été soutenu par le Père, par son amour éternel, alors même que tu étais dans le plus bas, je sais que moi aussi, ce même amour-là est pour moi. Ce même amour-là est présent. Ce même amour-là ne faillit jamais. Jacques 1, versets 2 à 4 va dire la chose suivante. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. Il y a moins d'amen, je comprends. Je comprends. Moi aussi, j'ai de la misère à dire amen à ça. On est tous des êtres humains normaux, OK? Mais ici, le propos de l'apôtre Paul, c'est de dire, dans toutes mes souffrances, l'amour de Christ est tellement grand, c'est tellement extraordinaire qu'on est capable de les traverser et d'en être plus que vainqueur. Amen. Et ça, c'est notre espoir. Rien ne peut nous empêcher, rien ne peut nous empêcher de vivre l'amour de Dieu manifesté à la croix. Personne ne peut annuler la croix. Personne ne peut révoquer ton statut d'enfant adopté. Hein, ton passé, il ne peut plus être mis sous le nez le jour du grand jugement. Le volume 5 est au vidange. Ça, c'est une assurance. Tu es justifié, tu es adopté, tu es non coupable, tu es choisi. Et là, l'apôtre Paul s'en va vers le feu d'artifice de la fin. Hein, vous avez vu, il a posé des questions. Et c'est pas fini. Et là, il va continuer, il va mettre un passage qu'on aime, en tout cas que moi j'aime, et il va finalement dire, il veut enlever toute possibilité que quelqu'un à quelque part puisse penser qu'il y a un petit élément ou un grand qui peut l'empêcher de vivre l'amour de Dieu. Et il va aller vers là, et voici ce qu'il va dire aux deux derniers versets, versets 38 et 39. Il va dire, en effet, j'ai l'assurance. Là, quelques passages avant, il a parlé de toutes les souffrances possibles, les épreuves. Et voici maintenant ce qu'il va inclure dans sa réflexion. Il va dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, il y a quelque chose de très beau. Vous voyez, il y a des paquets de deux, hein? Vous avez vu ça? Puis là, sur l'écran, j'ai essayé de vous l'illustrer un petit peu. Ni la mort, ni la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Toute la réalité de l'existence, il n'y a rien qui peut nous en séparer. Ensuite, on voit les anges et les dominations. Et là, ici, peut-être qu'on pourrait voir, OK, les anges, c'est les bons, les dominations, c'est les mauvais. Mais fort probablement que l'apôtre Paul, dans ce passage-là, va parler des anges, autant les bons que les mauvais. Et les dominations, il va parler plus des autorités terrestres, qu'elles soient justes ou injustes. Fait qu'il est en train de dire qu'il n'y a rien dans le ciel, ni les anges qui soient bons ou mauvais, ou il n'y a pas d'autorité sur terre qui soit aussi juste ou injuste soit-il, rien ne peut séparer de l'amour de Christ. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça avant les élections, recevez-le, s'il vous plaît. Il n'y a aucune autorité politique, qu'elle soit bonne ou pas bonne, qui peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen, s'il vous plaît. On continue. Ni le présent, ni l'avenir. Et là, on parle de tout l'espace-temps. Il y a la réalité, l'espace de la réalité avec la mort et la vie, les anges et les dominations. On parle de toutes les réalités d'autorité. Ici, présent et avenir, il y a toute la réalité du temps. Rien de ce qui est expérimenté aujourd'hui ou rien de ce qui pourra être expérimenté plus tard ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et il continue. Il n'y a ni les puissances, et là, il va parler des forces démoniaques, ceux qui ont peur des démons, tout ça. Il va le dire là, il va dire, ni les puissances ne peuvent nous en séparer. Ils ne sont pas assez fortes devant l'amour de Christ. Il va continuer en disant quoi? Il va dire, ni la hauteur, ni la profondeur. Il y en a qui pensent que ces versets-là, ça parle du Hadès et du ciel, comme le ciel et l'enfer. Mais il y a un commentateur qui parlait que ces deux termes mis ensemble peuvent vouloir dire les difficultés qui mettraient facilement l'être humain dans la défaite, mais qui sont des peanuts pour Dieu, qui sont rien devant Dieu. Pour nous, c'est une montagne énorme, défaite facile, mais pour Dieu, c'est juste trop facile. Et ça, ça nous parle encore de la grandeur de Dieu. Même dans cette réalité de l'espace, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est extraordinaire. Peut-être vous dites, hey, c'est pas encourageant la partie c'est persécution, mais l'amour de Dieu, c'est écœurant. Mais je vais vous dire, au final, c'est écœurant parce qu'à la fin de toute chose, on gagne. À la fin de toute chose, il n'y a personne qui peut se tenir contre nous. On est plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher à ce moment-ci. Dit autrement. Mais là, l'apôtre Paul en a mis pas mal épais. Là, hein? Il a essayé de prendre toutes les objections possibles et inimaginables pour finalement dire, hey, il n'y a rien de tout ça. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et j'espère que vous allez retenir ça. Il n'y a aucun obstacle, aucune personne, ni le temps, ni l'espace, ni l'existence, ni les épreuves, ni quoi que ce soit qui peut prévenir l'amour de Dieu d'atteindre son peuple. Et ça, c'est nous. Non seulement ça ne peut pas nous séparer, c'est comme si il n'y a rien qui peut empêcher l'amour de Dieu d'être présent, mais non seulement ça, il n'y a rien qui peut empêcher l'amour de Dieu de venir envahir le cœur de son peuple. Et là, tu fais comme, oh, attends un peu, wow. Et peut-être que ce matin, vous êtes dans l'épreuve complète, vous en avez par-dessus la tête, vous êtes écœuré. Ça, c'est une expression de la Beauce. Écœuré, ça veut dire être tanné. Mais si tu es beauceron puis tu dis écœuré, c'est un autre niveau. Peut-être vous en avez jusque-là de l'épreuve. Et peut-être que Dieu est en train de vous dire ce matin, peut-être qu'aujourd'hui tu ne seras pas délivré de ton épreuve ou de ta difficulté, mais sache que mon amour en réserve pour toi n'est pas épuisé. sache que cet amour-là est plus précieux que la fin de ton épreuve. C'est tough à entendre ça, quand on est dedans, là, quand on est écœuré, là. Mais c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous communiquer ce matin. Je pense que l'apôtre Paul est confiant dans la puissance, dans l'efficacité, dans la tendresse, dans la réalité de l'amour de Dieu. Et la question que je veux faire, parce que là, vous dites, « Ah, c'est un bel exposé théologique, tout ça, mais comment est-ce qu'on vit ça aujourd'hui? » La question que j'aimerais nous poser, c'est « À quoi ressemblerait ta vie, tes décisions, tes relations, si tu savais que l'amour de Dieu était aussi immuable, aussi disponible et aussi inébranlable? » À quoi ressemblerait ta vie? À quoi ressemblerait ta vie si cette idée-là que quand je suis dans la souffrance, c'est que l'amour de Dieu est plus faible? Si cette idée-là n'était pas là? Si on vivait comme vraiment ayant confiance que l'amour de Dieu est immuable, peu importe les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Et peut-être que tu ne rechercherais pas l'approbation comme tu le fais aujourd'hui. Peut-être que tu ne rechercherais pas cette approbation-là. Peut-être que tu aurais moins peur de prendre des risques, sachant que tu es pleinement aimé. Peut-être que tu arrêterais de vivre comme un orphelin. Tu sais, des fois, on fait des prières d'orphelin. Vous savez, c'est quoi une prière d'orphelin? Seigneur, je ne mérite rien. Je ne sais pas si tu m'aimes, mais si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Ça, c'est une prière d'orphelin. C'est une prière qui n'est pas fondée sur « Je suis pleinement aimé, choisi, adopté par Dieu. » Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une prière d'adopter trop gâté? Ah là, ça, ça en est un autre point, hein? C'est quoi ça ressemble à quoi la prière d'un adopté un peu trop gâté? « Hey Seigneur, tu sais là, que je suis ton enfant, fait que là, il faut que tu fasses quelque chose maintenant. » Tout de suite. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et dans nos cœurs, on a cette humilité-là de savoir que notre papa nous a adoptés puis il l'a fait par grâce. Puis s'il nous a adoptés, c'était par amour. Alors quand on vient vers Dieu, on peut être dans cette pleine assurance qu'on est aimé sans être arrogant ou sans être comme un orphelin en disant « Seigneur, je sais que tu m'aimes. Puis je sais que ta décision va être la meilleure. Mais Seigneur, je viens au trône de la grâce pour te demander ton aide parce que tu vois comment je souffre, Seigneur. » Et j'ai besoin que tu viennes intervenir. J'ai besoin que tu me remplisses de ton amour, Seigneur. Et c'est ça qui compte le plus. Je veux pas vivre cette épreuve sans toi. Je veux que tu sois au milieu de cette épreuve-là avec moi. Puis si tu es avec moi, je sais que je suis en sécurité. Et parce que je sais que tu es avec moi, je sais que j'ai rien à craindre. Et je sais que ton amour va être toujours suffisant. Alors, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Et merci d'être là encore. Amen. À quoi ressembleraient nos prières si on avait cette considération-là qu'on est pleinement aimé? Peut-être que tu serais moins inquiet pour l'avenir si tu avais cette conviction-là que l'amour de Dieu est immuable. Peut-être que tu verrais cette épreuve-là comme un moyen de t'identifier à Dieu plutôt que comme un moyen d'accuser Dieu qui fait rien. Peut-être que ta vie serait différente. Se lever ensemble ce matin. Je me rappelle, j'étais à un événement, puis il y a quelqu'un qui a prié pour moi, puis ses paroles résonnent encore dans ma tête, probablement plus de 10 ans. Et cette personne-là a prié pour moi et a dit, je prie pour un baptême d'amour dans ta vie. Et ça a fait, waouh, un baptême d'amour. J'ai déjà été baptisé dans l'eau, j'ai été baptisé de l'esprit. C'est-tu un nouveau baptême? Non, c'est pas ça. Mais c'est cette image-là d'être plongé dans l'amour de Dieu. D'être plongé dans cet amour qui ne change jamais. Et ce matin, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin justement de saisir cette conviction-là que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ce que je vais demander, c'est l'équipe de prière, équipe de soutien, équipe pastorale, Si vous voulez vous avancer déjà à l'avant, et puis s'il y a des gens qui ont besoin de prière, avancez-vous, on veut prier avec vous. On est conscient, puis on n'est pas dans le déni qu'il y aura des difficultés. On le sait. Mais on veut les affronter avec cette certitude-là que Dieu nous aime. Amen. Seigneur éternel, on te rend grâce pour tout ce que tu fais. On te rend grâce, Seigneur, pour qui tu es. On te rend grâce pour cet amour, Seigneur, qui est extraordinaire, qui est immuable, qui est personnel, qui est ton cœur pour nous. Et Seigneur, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse vivre comme des fils et des filles adoptés, pleinement sécures dans ton amour. Alors, je te prie que tu puisses le faire, Seigneur, ce matin, pour chacun d'entre nous. Accorde-nous de vivre comme des gens qui sont plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te remettons nos vies, Seigneur, et nos épreuves, Seigneur, on te les remet entre tes mains, Seigneur. Mieux vaut, Seigneur, être dans l'épreuve que d'être éloigné de toi, Seigneur, et d'avoir une vie parfaite. Mieux vaut être dans le feu de l'épreuve avec toi à nos côtés que de vivre une vie sans difficulté sans toi, Seigneur. Alors, Jésus, je te remercie, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, bénir et puisses-tu remplir d'un baptême d'amour, Seigneur, mes frères et mes sœurs, ceux qui sont à la maison. Remplir leur cœur, leur intelligence, leur âme de cet amour inébranlable qui a été démontré à la croix. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est vivante, qui est pénétrante jusqu'au plus profond de nos âmes, Seigneur. Et nous bénissons ton nom, nous bénissons chacun, Seigneur. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on te demande toutes ces choses. Amen.